Fernandez Mourola, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que votre ONG a pu recenser quelques cas de torture en RDC, notamment à travers les milieux carcéraux?
Oui, notamment, il y a plusieurs cas de torture. Vous connaissez que la torture, c'est à la fois physique et mentale. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont torturés tout simplement par le fait que la loi pénalisa ou criminalisa la torture qui a été promulguée par le chef de l'État depuis 2011 n'a pas été vulgarisée comme il se doit. Et donc, nous sommes en train d'insister pour qu'on puisse vulgariser davantage cette loi, surtout dans tous les milieux carcéraux et au niveau de la police, au niveau de ceux qui gèrent les centres pénitentiaires qu'on sort.
Est-ce que vous avez quelques cas précis de torture que vous pouvez énumérer?
Il y a plusieurs cas. Je peux vous donner par exemple le cas à Kinshasa de M. Ndangi, qui est propriétaire de la concession qu'on appelle Ndangi. Mais cette concession aujourd'hui fait l'objet d'une spoliation, aussi pas d'une expropriation sans précédent par ceux qui ont le pouvoir, ce qui n'est pas normal. Il y a des officiers qui ont occupé de manière illégale sa concession, qui sont en train d'y ériger des maisons, et c'est inconcevable, alors que M. Ndang est en possession, par exemple, de plusieurs titres et certificats d'enregistrement vieux de plus de 20 ans. C'est inconcevable. Il y a plusieurs sortes de tortures.
Comment décrivez-vous différentes formes de torture que vous avez recensées?
En fait, comme vous le savez, c'est la Convention internationale contre la torture qui définit la torture comme étant l'imposition volontaire de services d'ordre physique ou psychologique qui vise à faire souffrir un individu. Lorsque la torture accompagne, par exemple, l'exécution d'une condamnation à mort, on parle plutôt de supplice, qui rend la mort longue et douloureuse sous forme de châtiment. La torture est aussi un moyen employé pour obtenir des aveux ou terroriser des populations ou des organisations en ciblant les membres d'un groupe de personnes particuliers, en fait que les autres restent passifs de peur d'être également victimes à leur tour. Généralement, donc, vous vous rendrez compte que les actes de torture produisent le plus souvent des séquelles physiques. Quand ça produit des séquelles physiques, on parle de mutilation. Et quand ça produit des séquelles psychologiques, on parle de traumatisme. Mais dans tous les cas, du point de vue du tortionnaire ou du bourreau qui tient sa victime à sa merci, torturé peut répondre à des pulsions sadiques ou simplement s'inscrire dans ce qu'on appellerait la soumission à l'autorité établie. Mais de toute évidence, la torture reste proscrite par les droits internationaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Est-ce que vous avez identifié les auteurs de tous ces cas, de tous ces actes de torture?
Oui, généralement, les auteurs sont ceux qui gardent les cachots, ceux qui gèrent les forces négatives, ceux qui gèrent les groupes armés, ceux qui gèrent également les services de sécurité et de renseignement. Ce sont là les principaux auteurs des différents cas de torture qu'on a pu inventorier sur l'ensemble du territoire national.
Pourquoi, d'après vous, le recours des victimes est généralement freiné, voire empêché?
Non, c'est-à-dire que, comme vous le savez, le recours des victimes est généralement freiné ou empêché parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a le fait de relever le fait qu'il y a l'ignorance par les victimes de leurs droits. Il y a également la réticence des autorités d'ouvrir une enquête dans la mesure où les auteurs des actes de torture ont qualité d'agent public. Il y a également le fait que l'absence d'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l'exécutif. Il y a également l'absence de contrôle du parquet sur les officiers de police judiciaire des services de sécurité. Et il y a également le fait que l'impunité des tortionnaires et la peur des victimes de la torture. Donc l'impunité est également à la base de la pérennisation de la pratique de la torture dans notre pays.
Que recommandez-vous au pouvoir public dont vous déplorez le laxisme face à ces services que vous désignez comme tortionnaires?
La journée comme aujourd'hui, c'est une journée qui nous donne l'opportunité d'inviter le gouvernement de la République à vulgariser et à mettre en œuvre des mesures d'application de la loi numéro 011/10 du 13 juillet 2011 portant sur la criminalisation ou la pénalisation de la pratique de la torture en République démocratique du Congo. Mais le gouvernement devrait également faire en sorte d'adopter une politique d'appui institutionnel au centre de réhabilitation des victimes de la torture qui est contre le pays, car l'assistance médicale, judiciaire, psychologique et matérielle aux victimes de la torture ne peut pas être l'apanage de seuls partenaires internationaux. Nous sommes en train également d'inviter le gouvernement à doter les hôpitaux de nos différentes provinces de l'imagerie à la résonance magnétique, IRM, qui est en fait un outil médical indispensable pour l'assistance aux victimes de la torture. Nous sommes également en train d'inviter le gouvernement à mettre en application toutes les recommandations du comité contre la torture, et notamment la recommandation sur laquelle la RDC devait prendre des mesures urgentes pour que tout lieu de détention soit sous autorité judiciaire, en accord avec la décision du président de la République qui est datée du 8 mars 2001. On a également invité le gouvernement de la République à mettre en application la recommandation du comité contre la torture des Nations Unies selon laquelle la RDC RDC devrait prendre des mesures urgentes pour limiter au strict minimum le nombre de forces et de services de sécurité dotés de pouvoirs d'arrestation et de détention.
Mais les défenseurs des droits de l'homme aussi tardent à désigner leurs délégués à la nouvelle Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH. Vous n'arrivez toujours pas à vous accorder autour des gens qui doivent vous y représenter.
Vous savez, il était la loi instituée à la Commission nationale des droits de l'homme et a été promulguée le 21 mars 2013, un mois avant la loi instituée à la CENI. Et le président de l'Assemblée nationale nous avait promis à l'époque qu'il devrait mettre tout en œuvre pour que la Commission nationale des droits de l'homme et la CENI soient installées avant le 15 juin. Mais nous avons remarqué, sans pour autant le vouloir, que voilà, l'Assemblée nationale est partie en congé sans qu'on puisse arriver à installer la Commission nationale des droits de l'homme. Mais je vous assure que les ONG congolaises des droits de l'homme ont déjà transmis la liste de leurs délégués à l'Assemblée nationale. Les ONG congolaises ont adopté et ont signé des pétitions dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Ils ont envoyé la liste de leurs délégués. Oui, ça a pris environ un mois parce qu'on devrait récolter les signatures, les procès-verbaux dans chaque ville, les mettre ensemble et les transmettre à l'Assemblée nationale. C'est donc une question déjà réglée pour ce qui concerne la composante ONG des droits de l'homme.
Pensez-vous que cette CNDH, dès qu'elle est mise en place, elle peut relever tous les défis que vous venez d'évoquer en ce qui concerne la torture?
Tout à fait, c'est une institution citoyenne d'appui à la démocratie qui a le devoir d'aider, de changer l'image de notre pays en ce qui concerne la situation des droits de l'homme. Donc c'est une institution qui peut renforcer davantage un état des droits dans notre pays.
Fernandez Mourola, je vous remercie.
Merci beaucoup.